Entretien sur la première épître aux Corinthiens par Henri Rossier, édition 1959. Chapitre 5. On entend dire partout qu'il y a de la fornication parmi vous, et une fornication telle qu'elle n'existe pas même parmi les nations, de sorte que quelqu'un aurait la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette action fût ôté du milieu de vous. Car pour moi, étant absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà, comme présent, jugé, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de livrer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ celui qui a ainsi commis cette action. J'ai jugé, dis-je, de livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus. Votre vanterie n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière? Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car aussi notre Pâque, Christ, a été sacrifié. C'est pourquoi, célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité. Je vous ai écrit dans la lettre de ne pas avoir de commerce avec des fornicateurs, non pas absolument avec les fornicateurs de ce monde, ou les avares et les ravisseurs ou les idolâtres, puisqu'ainsi il faudrait que vous sortissiez du monde. Mais maintenant, je vous ai écrit que, si quelqu'un appelé frère est fornicateur ou avare ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, vous n'ayez pas de commerce avec lui, que vous ne mangiez pas même avec un tel homme. Car qu'ai-je à faire de juger ceux de dehors aussi? Vous ne jugez-vous pas ceux qui sont de dedans? Mais ceux de dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Je rappelle que cette épître nous parle dans ses premiers chapitres de l'Église ou de l'Assemblée comme maison de Dieu, non pas des Églises, comme les hommes les ont faites dans leur désobéissance à la parole de Dieu. Or, quoique dans cette maison, confié à la responsabilité de l'homme, toutes sortes de mauvais éléments aient été introduits, nous avons cependant à nous conduire dans cette Église responsable, dont nous faisons partie, d'une manière qui soit à l'honneur de Christ et du Dieu dont telle est la maison. Il y a là un certain ordre à observer. C'est pourquoi nous trouvons ces mots dans la première épître à Timothée, où la maison responsable est encore en bon état. Afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. Chapitre 3, verset 15. Beaucoup de désordres s'étaient, par contre, glissés, comme nous l'avons vu, au milieu des Corinthiens. Au lieu de considérer les dons divers comme étant au service de la maison de Dieu, ils en usaient pour se glorifier eux-mêmes, s'enflant pour l'un contre un autre, exaltant l'homme, formant des sectes. C'est qu'ils étaient charnels et qu'au lieu de se bien conduire, ils ne rendaient témoignage qu'au désordre. Mais Dieu s'est servi de ce désordre même pour nous enseigner tous quant à l'ordre qui convient à sa maison. Notre chapitre signale un scandale supporté par l'assemblée de Corinthe, un cas de fornication tel qu'il n'en existait pas de semblable parmi les nations. L'apôtre n'en dit que deux mots, tellement il lui répugne d'entrer dans les détails. Les Corinthiens, tout en sachant beaucoup de choses, car si vous parcourez les chapitres 5 et 6, vous trouverez continuellement ces mots « ne savez-vous pas » qui indiquent toujours la certitude chrétienne. Les Corinthiens en ignoraient d'autres, et avaient à apprendre la manière de se conduire à leur égard. Il en était ainsi pour le cas scandaleux qui s'était passé parmi eux. Si vous ouvrez l'Ancien Testament, au chapitre 17 à 21 du Deutéronome, vous y trouverez une parole répétée continuellement « Ôtez le mal du milieu de vous ». Mais pour ôter le mal, il fallait que l'assemblée d'Israël lapidât de tels gens. Elle devait donc les retrancher par la mort corporelle. S'il s'agissait de l'assemblée chrétienne, les Corinthiens savaient bien qu'ils ne pouvaient le faire. Mais quoi donc? Une chose avant tout qu'ils savaient et ne faisaient pas, parce qu'ils étaient remplis d'orgueil. Ils préféraient passer le mal sous silence plutôt que de s'humilier. Aussi l'apôtre leur dit « Vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette action fût ôté du milieu de vous. » Verset 2. Ce qu'ils avaient à faire, c'était de se diriger, non d'après une connaissance qu'ils n'avaient pas encore, mais d'après celle qu'ils avaient. Ils ne savaient pas encore comment ôter le méchant, mais ils devaient s'humilier afin qu'il fût ôté. C'est une leçon importante pour nous, bien-aimés, car nous avons reçu de la part de Dieu, ne fût-ce que la connaissance d'une de ses pensées, nous devons nous y conformer sans restriction, et Dieu nous enseignera ce qui nous manque encore. L'humiliation était-elle de saison? Les Corinthiens ne le savaient-ils pas? Cette vérité s'applique à tous les cas. Si nous, chrétiens, nous obéissions tous à l'égard des choses auxquelles nous sommes parvenus, nous marcherions dans le même chemin, et le Seigneur nous révélerait ce qui nous manque encore. Sans doute, nous n'aurions pas tous la même connaissance, mais jamais la connaissance d'une vérité, toute incomplète qu'elle soit, ne nous conduira, si nous y obéissons, dans un autre chemin que dans celui de Dieu. Avec une connaissance très limitée, je pourrais marcher dans le même sentier que mon frère, qui en a beaucoup plus que moi. Si les Corinthiens avaient agi de cette manière, ils auraient mené deuil, en attendant que Dieu leur révélât ce qu'ils avaient à faire pour se purifier du mal. Mais leur orgueil les faisait penser à eux-mêmes et à leur réputation, et ainsi, en présence du mal le plus affreux, ils ne pouvaient être purifiés. Dieu ne leur demandait pas d'exercer une discipline qu'ils ne connaissaient pas encore, mais de mener deuil, et cela, ils devaient le savoir. Quand il s'agissait de l'exercice de cette discipline, l'apôtre pouvait user au milieu d'eux de l'autorité spéciale qui lui avait été confiée. Versets 3 à 5. Il aurait pu livrer un tel homme à Satan, et il l'avait déjà décidé si l'obéissance à Dieu ne se manifestait pas chez les Corinthiens. L'apôtre Pierre, avec cette même puissance, avait retranché Ananias et Saphira, qui avaient menti au Saint-Esprit. Ici, il s'agissait de livrer le fornicateur à Satan, c'est-à-dire de laisser l'ennemi faire de lui sa proie jusqu'à la destruction du corps, afin que l'esprit fût sauvé dans la journée du Seigneur Jésus. Malgré son affreux péché, cet homme était considéré comme appartenant à la maison de Dieu, mais l'apôtre pouvait disposer de lui. Cet acte n'était confié à personne d'autre qu'à un apôtre. Et nous ne pouvons dire, quand nous exerçons la discipline envers celui qui a péché, que nous le livrons à Satan. Dans la première épître à Timothée, l'apôtre dit l'avoir fait lui-même, et sans qu'on le voie uni à l'assemblée pour cela. 1 Timothée 1, verset 20. Du nombre desquels sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Quand il s'agissait de blasphème contre la personne de Christ, il n'avait pas hésité un instant, afin que cet homme apprît à ne pas blasphémer. Et s'il avait résolu de le faire à l'égard du fornicateur, il ne semble pas ici avoir exécuté la chose, et voici pourquoi. S'il l'avait fait, La conscience des Corinthiens n'aurait pas été en jeu, et il fallait avant tout la réveiller au sujet du mal. Verset 6. Ce manque de conscience est toujours le caractère des chrétiens qui marchent selon la chair. Leur venterie n'était pas bonne. Combien d'humiliations ceux auxquels le Seigneur a confié un témoignage pourraient éviter s'ils ne pensaient pas à eux-mêmes et ne nourrissaient pas leur orgueil. Et que de fois, nous étant estimés quelque chose, nous avons été jetés dans la poussière, comme l'étaient les Corinthiens à ce moment-là.
Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière?
Ce passage qui se retrouve en Galates 5, verset 9, à propos des ordonnances de la loi, est employé ici au sujet de la chair. Un péché, toléré dans l'assemblée, exerce son influence corruptrice sur tout l'ensemble, et le légalisme agit de même. Aussi l'apôtre dit
« Ôtez le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. »
C'est ainsi que Dieu nous voit en vertu de l'œuvre de Christ. Tout cela est une allusion à la Pâque et à la fête des pains sans levain en Exode 12. Le sang de l'agneau pascal avait été mis sur les poteaux et le linteau des portes, et quand l'ange destructeur avait passé, il avait épargné les fils d'Israël parce que Dieu voyait le sang. Mais ce n'était pas la Pâque qui était la fête, elle en était le point de départ. Vous le voyez dans le chapitre 28, verset 16 des Nombres.
Au premier mois, le 14e jour du mois, est la Pâque à l'Éternel, et le 15e jour de ce mois est
la fête des pains sans levain. De même ici, versets 7 et 8.
Car aussi notre Pâque, Christ a été sacrifié, c'est pourquoi célébrons la fête.
Il ne s'agit pas dans ce passage de la scène mémoriale de la mort de Christ. Nous la trouvons au chapitre 11 de cette épître. Ceux qui ont compris la valeur du sang de Christ savent qu'en vertu de ce sang, ils sont sans levain devant Dieu et peuvent se présenter à lui, revêtus, comme Christ, d'une sainteté parfaite, mais ils doivent chercher soigneusement à correspondre, dans leur marche ici-bas, au caractère qu'ils possèdent en sa présence, et ils sont capables de le faire. Ils ont à célébrer les 7 jours des pains sans levain en traversant ce monde. Le nombre 7 est toujours, dans la parole, le nombre de la plénitude et correspond ici au temps complet de notre marche ici-bas. Si nous avons compris le but de Dieu en nous rachetant par le sang de Christ, quelle pensée pour nous que notre vie soit une fête perpétuelle, une fête de sainteté pratique selon Dieu et pour Dieu. L'apôtre ajoute au verset 9
« Je vous ai écrit dans la lettre de ne pas avoir de commerce avec des fornicateurs. »
On a pensé, d'après ces paroles, que l'apôtre avait écrit une première lettre maintenant perdue. Cette pensée est fausse. Et nous en avons la preuve au chapitre 4, verset 6, où l'apôtre leur dit de ne pas élever leur pensée au-dessus de ce qui est écrit. Mais en outre, ce mot
« Je vous ai écrit »
se retrouve constamment dans 1 Jean pour désigner l'épître même que l'apôtre leur adressait. Il en est de même ici. C'est dans notre épître que l'apôtre montre aux Corinthiens qu'ils ne pouvaient pas avoir de commerce avec les fornicateurs. Cela ne signifiait pas, ajoute-t-il, qu'ils n'eussent aucun commerce avec les fornicateurs de ce monde. Nous y sommes continuellement en contact avec le mal, sinon il nous faudrait être ôtés du monde. Mais
si quelqu'un appelait frère et fornicateur,
etc. Nous ne devons pas avoir de commerce avec lui. C'était un des caractères de la discipline que les Corinthiens ne connaissaient pas, et l'apôtre les renseigne maintenant sur ce qu'ils avaient à faire. Nous devons obéir à cette parole, comprendre que si quelqu'un a été retranché de l'assemblée, nous ne pouvons pas même manger avec un tel homme, afin que, réalisant l'exclusion dans laquelle il est placé, il soit forcé de retrouver la communion avec l'assemblée. Il a été mis dehors comme méchant et garde ce caractère jusqu'à son retour. Il ne s'agissait pas pour l'assemblée d'exercer un jugement judiciaire sur cet homme, mais d'ôter le levain du milieu d'elle, en vue de la pureté de la maison de Dieu dans ce monde. Si les Corinthiens ne l'avaient pas fait, ils auraient perdu tout droit à être l'assemblée de Dieu à Corinthe. Nous sommes, hélas, souvent appelés à exercer cette discipline. Ne l'exerçons pas comme l'acte d'un tribunal, mais dans un but d'amour, pour que le chrétien en chute retrouve la communion qu'il a perdue, et que, l'Esprit de Dieu agissant par l'humiliation dans son âme, il soit ramené à la place dont il a fallu le priver. D'autre part, n'agissons jamais envers le retranché avec ce faux amour que l'on constate si souvent en maintenant des relations fraternelles avec lui, qui trahissent notre indifférence quant au mal et empêchent de fait la discipline de produire son effet sur sa conscience. Cela ne signifie pas que nous n'ayons à nous enquérir des effets produits par l'exclusion, que nous ne devions pas surveiller avec sollicitude les premiers symptômes d'un retour au bien, et encourager dans ce chemin celui qui est tombé, afin que l'œuvre de restauration soit complète. Nous voyons, dans la seconde épître, que l'exhortation, écoutée par les Corinthiens, avait produit un grand zèle dans leur cœur, qu'ils s'étaient enfin humiliés de leur orgueil, et qu'un travail béni de restauration s'était accompli dans l'âme du retranché. Alors l'apôtre change de langage et exhorte l'assemblée à le recevoir de nouveau, afin qu'il ne fût pas consumé par une trop grande tristesse.